Radio Couleur Chartreuse vous présente La Saine Cause. Du bien commun, de l'éducation populaire, des rencontres. Tous les jeudis à 20h et les dimanches à 15h. Émission proposée et présentée par André Duny.
Bonjour, ici André Duny. Je traite aujourd'hui une nouvelle fois, mais pas toutes les fois non plus, la question de Covid, vaccin, passe, démission des soignants, ou plus exactement non-paiement des salaires des soignants. C'était il y a quelques jours. Toujours la même méthode, rationnelle, critique, pas de fake news, c'est-à-dire pas de fausses nouvelles, toujours des faits à vérifier ou vérifiables ou vérifiés. Toujours insérer le sujet spécialisé, comme ici le Covid, hein, ou une discussion, ou un fait local ou particulier, dans le général, dans le tout global, universel. Hein. C'est un peu le même principe qui permet de comprendre, je l'avais explicité à plusieurs reprises, et j'en parle à la prochaine émission, sur le changement climatique, on ne peut rien comprendre. Si on ne relie pas les phénomènes, la pensée spécialisée est un ennemi de la pensée, on va dire, systémique. Moi, je m'inscris dans une pensée plutôt systémique, où on relie les pensées spécialisées, mais on ne s'enferme pas dans la spécialité. Voilà, donc, insérer la partie dans le tout. Deuxièmement, chercher l'histoire du sujet. C'est l'histoire qui est la clé du présent, parce qu'elle nous donne l'engendrement, les processus par lesquels ce présent est advenu. Quand on regarde un paysage, c'est le fruit de millénaires de travail humain. Ça n'est pas seulement l'interaction entre différents éléments. Hein, c'est pas seulement la vision du tout du paysage. C'est comment il s'est construit. Donc, deuxième principe, toujours chercher la construction historique. Souvenez-vous sur l'émission avec Marie, concernant la voiture. On ne comprend bien la question de la voiture individuelle comme mode essentiel de transport, voulu par nos élus, les États, et bien sûr le système économique, le mode de production économique à base de pétrole, qu'on appelle système capitaliste, carboné, globalisé, qui met tout le paquet sur la voiture, y compris maintenant tout le paquet sur la voiture électrique. Eh bien, on ne peut comprendre cette priorité à la voiture que parce qu'on a éliminé historiquement ces alternatives. Je discutais encore ce matin avec une personne très sympathique de Pont-Beauvoisin qui m'a appris qu'il y avait un tramway entre Pont-Beauvoisin et je suis en train d'oublier, il n'y avait pas que le tramway Saint-Béron qui passait en Chartreuse jusqu'à Saint-Égrève, mais il y avait un autre tramway local qui marchait très bien avec, bien sûr, l'électricité renouvelable de la centrale de Saint-Béron, la centrale électrique, hydraulique électrique, voilà. Et quand on réfléchit à l'histoire, pourquoi et qui a fait qu'on passe au tout électrique, au tout bagnole? On comprend mieux les choses quand on sait qu'aux États-Unis, Ford et ses amis de la bagnole ont fait arracher 42 000 kilomètres, ça faisait le tour du monde, hein, 42 000 kilomètres de tramway électrique. Hein, il y avait des tramways partout, et bien il n'y en a plus. Ben, s'il n'y en a plus, c'est parce que ceux qui voulaient de la bagnole, du pétrole, et maintenant il y a 1 million de morts prématurés aux États-Unis à cause des fumées. Ben, nous en France, c'est 70 000, hein, c'est que 70 000 sur 67 millions d'habitants. Donc cherchez toujours dans l'histoire ce qui est en quelque sorte l'engendrement du présent. Sinon, on n'a qu'une photographie du présent, mais on n'a pas son processus d'engendrement. Voilà. Et dans le présent, ce qui est intéressant, c'est de chercher les contradictions. Non seulement c'est de prendre avec l'ensemble des données spécialisées et de les relier, hein, mais c'est aussi de chercher la dialectique des contradictions et des contraires. Par exemple, à mon époque, il y avait beaucoup moins de contestations. Tout le monde est pessimiste quant à l'avenir, je suis d'accord. Hein, on attend la prochaine épidémie, les prochains incendies géants, on attend les prochaines inondations, les sécheresses. Oui, d'accord, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que les femmes, par exemple, qui subissaient le viol, les agressions sexuelles, etc. Et d'ailleurs, là, je fais un petit coucou à l'insolente de Chambéry. Cela fait à peu près un an que j'ai essayé d'établir le contact pour une ou deux solides émissions là-dessus, hein, qui aillent depuis la domination du simple mâle de base jusqu'à la domination du capitalisme de sommet. Toutes les formes d'oppression, à la fois individuelle et puis plus collective, hein, sur les salaires inégaux. Eh bien, voilà, ce que je veux dire, c'est que si on ne cherche pas la dialectique des contradictions dans ce qui se passe, on sombre dans le pessimisme. Or, je n'ai jamais vu autant de combats, y compris d'ailleurs, que je trouve parfaitement légitime de dire, attendez, laissez-nous choisir notre mode de santé et ne nous imposez pas la vaccination obligatoire, surtout que ce n'est pas un vaccin, qu'il y a beaucoup de, comme je vous l'ai montré la dernière fois, de questions à se poser à son sujet, hein, d'effets secondaires gravissimes et assez massifs, pour que certains aient le bonheur de choisir de ne pas être vaccinés tout en prenant toutes les précautions pour ne pas être véhicule. Hein, mais on n'a pas pris autant de précautions lorsque les personnels hospitaliers n'avaient ni vaccination, ni masque, ni gants, ni rien, ayant dû se débrouiller avec les moyens du bord. Et voilà, et ils n'ont pas plus contaminé que depuis qu'ils sont vaccinés. Ou s'ils ont contaminé un peu plus, ça n'est pas vraiment massif. Voilà, il faut donc insérer les éléments structurels d'analyse du présent, il faut l'insérer dans l'histoire, et il faut l'intégrer aussi dans leurs contradictions, parce que si on fait seulement du système, on risque de dire « Ah ouais, mais le système nous conduit à notre perte, etc. » Non, il faut voir à l'intérieur du système, ou à l'extérieur, des éléments qui le travaillent en contradiction. Donc, disais-je, je n'ai jamais vu autant de bagarres, de protestations, y compris un pays qui était complètement silencieux sur le racisme, sur un tas de choses. Enfin, pas complètement silencieux, toujours des bagarres contre le racisme de la part des Noirs. Mais aujourd'hui, c'est énormément de manifestations aux États-Unis. Il passe pas une journée sans que... Et il y a du monde. Voilà. Et ben nous, c'est exceptionnel que pendant 10 samedis de cet été, il y ait eu entre... Bon, ça, les chiffres officiels, hein, c'est entre 180 000 et 200 ou 300 000 personnes. Bon, si on regarde bien les chiffres, on peut les multiplier par deux. Mais c'est inimaginable pour moi qu'il y a 30 ans, on ait, allez, mettons-nous d'accord, 200-300 000 personnes qui se bougent les samedis en pleine vacances. C'était impensable. Hein, on regardait juste les avions défiler leurs banderoles en se bronzant sur une côte d'Azur ou à l'étranger, puisque est venu le temps du tourisme de masse dévastateur avec, bien sûr, la pollution par les avions et la pollution que génère le tourisme de masse. Voilà, donc, toujours cette même méthode. Donc, je reprends la question sujet du Covid en l'insérant dans l'histoire. Hein. L'histoire, c'est les labos avec tous leurs scandales. Les labos, c'est-à-dire les grandes multinationales qui fabriquent des médicaments par millions de tonnes. Hein. Faut pas croire que c'est juste quelques petits labos isolés. Hein. C'est d'énormes usines dispersées dans le monde qui produisent des montagnes de médicaments parce que ça fait des montagnes de profits compte tenu qu'il y a des... les grands actionnaires sont très peu nombreux, mais les profits sont énormes. Je vous rappelle, toujours pour l'histoire, hein, qu'ils ont à l'origine d'un tas de scandales, ces laboratoires, pour précipiter des médicaments sur le marché avant même qu'ils ne soient longuement expérimenté pour en voir les effets secondaires. Je rappelle que la thalidomide qui a été stoppée en 1961, il y a eu 10 000 cas, il y a eu énormément d'enfants qui ont été sans bras ou un bras collé au front. C'est hallucinant. Voilà. Et on n'a pas arrêté très vite ce système. Alors, quelqu'un avec qui je discutais en venant ici me dit « Oui, mais monsieur Luny, j'ai écouté votre dernière mission, vous mettez pas ça en cause le fait que si la thalidomide a causé autant de dégâts, c'est que l'organisme gouvernemental qui produit les autorisations de mise sur le marché, les AMM, c'est-à-dire l'organisme sanitaire gouvernemental d'autorisation des médicaments et qui tient aussi le registre de leurs effets secondaires, aurait dû exiger une plus longue expérimentation. De même que peut-être on aurait pu un peu moins se précipiter dans la peur. Enfin, qui nous a précipité dans la peur ? En faisant la litanie des chiffres des morts ? Pas nous. Donc revenons sur l'histoire récente, regardons la dialectique des choses et regardons le système dans son ensemble. On verra qu'il y a énormément de scandales côté des laboratoires liés au fait qu'ils sont dominés par des fortunes qui sont leurs actionnaires, c'est des laboratoires privés, ils se servent de la recherche publique, ils gardent pendant 20 ans par-devers eux leur propriété intellectuelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui sont partisans de vacciner avec Pfizer, par exemple, ne peuvent pas le produire parce que propriété intellectuelle, secret de fabrication, Tintin, et on ne donnera pas le secret, contrairement à toute la bagarre qui a eu lieu pour le sida, où l'Afrique du Sud a pu produire la trithérapie du sida, parce qu'ils ont contraint le Big Pharma à donner les formules qui permettaient de stopper l'expansion du sida. Donc, vous voyez, si on regarde l'histoire de Big Pharma, ça craint. Donc il faut laisser s'installer le doute et ne pas se précipiter sur le premier vaccin venu, surtout quand on nous fait peur. Je ne dis pas que je suis anti-vaccin, je dis qu'il faut garder la tête froide et regarder les contradictions. Par exemple, il y a un truc quand même qui devrait nous énerver un peu, c'est que 75% des malades du cancer sont confrontés à une pénurie de médicaments pour soigner leur cancer. On est en France, on est en 2021, on est en septembre 2021, et j'écoute sur France Inter, sur France Info, puisque le matin je passe toujours 2-3 heures à bouquiner, à écouter, à faire la vaisselle, à préparer le déjeuner, mais c'est hallucinant. 75% des malades du cancer sont confrontés à la pénurie de médicaments essentiels à leur traitement. Mais attendez, les sanctions, zéro. La Macronie ne sanctionne rien. Les députés macronistes qui empochent leurs 6 000 euros, pour rien. Car il n'y a pas de sanctions contre les grands, dont notre Sanofi, dont notre grand laboratoire Servier. Ah oui, tiens, Servier, eh ben oui. Comment se fait-il que la France n'ait pas interdit ce médicament qui a mis 2500 femmes au cimetière, 300 000 invalides, ou particulièrement invalides des poumons, par la valvulopathie cardiaque, c'est-à-dire qu'ils sont essoufflés, le cœur ne supporte pas tellement les poumons que le cœur, avec ce fameux médicament censé... il n'était pas vendu pour faire maigrir, mais tout le monde savait qu'il était utile à cela, compris énormément de femmes pour couper l'appétit. Et ce médicament, les USA l'ont interdit rapidement. C'est pourtant un pays où il y a aussi beaucoup de conflits d'intérêts dans leur organisme gouvernemental de mise sur le marché des médicaments. Mais nous, en France, pendant 10 ans de plus... on a vendu ce fameux Mediator, 10 ans de plus que les USA, ce qui veut dire 2500 femmes décédées de valvulopathie cardiaque. Et vous vous rendez compte qu'il a fallu une seule médecin de Brest, pneumologue, pour dire « mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment des cas bizarres !» et que petit à petit, elle remonte la chaîne. Eh bien écoutez, excusez-moi, mais dans ma dernière émission, j'ai dit qu'on commençait à remonter la chaîne de la vaccination Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, ou le pire, AstraZeneca. Là, tout le monde est... parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'effets secondaires. Enfin, disons, ils ont été rendus visibles. Mais quand vous voyez les chiffres donnés par M. Mukeli et toute son équipe médicale qui ont épluché pendant 6 mois tous les registres de pharmacovigilance des États-Unis et d'Europe. On va s'en tenir aux chiffres des États-Unis, comme ça, ça calme le jeu. Mais vous rendez compte qu'il y a plus de morts et d'invalides sur 6 mois de cette vaccination que sur 30 ans de toutes les vaccinations aux États-Unis. Et quand même, il y a un petit problème, bénéfice, risque. Je n'interdis à personne de se vacciner. Ce matin, j'ai voulu déjeuner dans un resto Et ben non, je ne pouvais pas. Et la dame me dit, ouais, je hais ceux qui ne se font pas vacciner parce que ça fout la merde, etc. Je lui dis, mais écoutez, moi je ne vous embête pas si vous êtes vacciné. Peut-être avoir un petit peu de, comment dire, de recul et regarder pourquoi les gens ne sont pas vaccinés. En France, il y a 76% des gens qui se méfient du vaccin. C'est quand même pas tous des imbéciles. Il y en a qui, beaucoup qui se sont fait vacciner. On en est à plus de 50 millions sur 67 millions d'habitants. Il en reste encore 27 millions qui ont reçu au moins une dose. D'accord, mais personne n'embête ceux qui se font vacciner. N'embêtez pas ceux qui ne se font pas vacciner parce qu'ils estiment que le bénéfice-risque n'est pas garanti, que le consentement libre et éclairé ne leur est pas garanti parce qu'on n'a pas les informations précises de chez précises. Et moi, j'ai attendu avant de vous faire ces émissions pour ne pas me faire taxer de complotiste ou de sectaire, enfin adhérent d'une secte ou quoi que ce soit. Alors que je ne cherche qu'une chose, c'est à essayer de vous donner les chiffres précis et exacts. Et je reviendrai d'ailleurs sur la tomate, puisque j'ai pas mal de gens qui me disent « on a écouté ta longue agonie muette de la tomate ». Eh bien, je vais revenir sur la tomate, mais cette fois-ci à tomate bio, et vous allez tomber raide sur votre chaise en voyant comment l'industrie agroalimentaire, hein, qui nous tue tout en nous nourrissant, se met sur la tomate bio et on va manger une belle saleté, mais pas une saleté avec des pesticides dedans, non, quand même. Mais sur les nutriments, ça va être catastrophique. Ça va être du bio, mais sans bons nutriments. Pas du bon bio de saison. Pas du bon bio de bonne terre, pas du bon bio de bonne terre enrichie de bons nutriments, soit des engrais verts, soit des composts, soit des fumiers, soit etc., qui font que la terre bien nourrie avec les micro-organismes fabrique un produit nourrissant et sain et bon pour la santé, et qui donc protège aussi notre santé, puisque plus c'est cultivé dans ces bonnes conditions-là, et plus vous avez de vitamines, d'oligo-éléments qui vont renforcer vos mécanismes de défense. J'avais conclu là-dessus la dernière fois.
My life, 'cause when the blood begins to flow, the dropper's neck when I'm cozying in on deck.
Donc, l'histoire montre qu'on a eu 17 cas ou 20 cas en France avec des effets mortels ou avec des invalidités ou avec des gens estropiés à la suite de médicaments mis sur le marché par manque de vigilance de l'appareil d'État français, donc en conflit d'intérêts. Hein, on peut dire que à peu près les deux tiers des personnes reçoivent de l'argent des laboratoires. Hein. On pense à la dame qui s'est acharnée sur le professeur Raoult contre l'hydroxychloroquine. J'en fais pas un pied hein, de l'hydroxychloroquine parce que c'est beaucoup moins efficace que l'ivermectine et d'autres formules pas chères non plus et avec lesquelles se sont soignés plein de gens dans le monde et en France avec des résultats au moins aussi importants que ceux du vaccin. Mais la recherche est moins avancée et donc je vous en cause tout à l'heure. En clair, 75% des malades du cancer confrontés à un manque de médicaments pour soigner leur cancer en France. Voilà l'histoire de Big Pharma, voilà l'histoire de la thalidomide, voilà l'histoire du Mediator. Il y a eu trop de scandales pour que les gens ne se méfient pas, puisque 76% des gens se méfient du vaccin. C'est hallucinant. Et il y a de très bons vaccins. Hein. Moi, je suis vacciné et je pense qu'il y a un certain nombre de vaccins qui sont très, très efficaces. Mais de grâce, laissez-nous évaluer le bénéfice-risque et on est guère plus contagieux quand on n'est pas vacciné que lorsqu'on est vacciné. En gros, quand vous êtes vacciné, vous avez 30, 40 ou 50% de moins de chances de contaminer autrui, mais pas plus, pas moins. Et le plus grave, c'est que moi j'ai été dans un anniversaire récent avec des chers professeurs, hein, j'ai été invité par l'un d'entre eux. Je suis venu avec mon masque, personne n'avait un masque. On était dans une villa louée à 2500 euros, pas loin du lac d'Aigbelette, pour une semaine. ça craint un peu aussi. Et là, une vingtaine de personnes, mais sans masque, sans rien, avec les aliments sur la table, tout le monde tripotait ce qu'il avait envie de prendre, plus ou moins avec les doigts, plus ou moins avec des fourchettes, et tout le monde était vacciné, mais il se sentait blindé, en sécurité. Je leur ai dit, mais pas du tout, vous me contaminez, vous êtes contaminable à votre tour, oui d'accord, vous êtes protégé à 80% des formes graves. Là, il n'y a pas photo. D'accord, vous, vous êtes protégé à 80%. Et pensez bien que si vous êtes 20, il y en a 4 qui ne sont pas protégés, puisqu'il y a 20% de pas protégés contre les formes graves parmi les vaccinés. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, regardez, moi, je prends toutes les précautions d'usage pour ne pas vous contaminer. Et ce serait sympa que vous preniez les mêmes. Bon, bref, ce n'est pas évident du tout de ne pas réfléchir, voilà. Et je constate simplement qu'on dit qu'il y a 3000 infirmières qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Eh bien, bonjour, dans les services, on était à une infirmière près, c'est le désastre. Mais ce n'est pas 3000 infirmières, en fait. Si on regarde tous les soignants, depuis les pompiers, les ambulanciers, tous les services qui gravitent autour de la santé, bon, j'ai vu une infirmière énervée, très sympa, qui dit « ça va péter », mais elle dit que c'est aux alentours de 300 000, peut-être un peu moins quand même, mais ça fait énormément de gens qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Personnellement, j'ai vu les pompiers de Digne-les-Bains, dans leur majorité, dire ben, ils feront plus le pompier, puisqu'on veut leur imposer d'être vaccinés dans ces conditions-là. Alors que jusque-là, ils ont pris toutes les précautions, surtout quand il n'y avait ni masque, ni gel, ni quoi que ce soit. Bienvenue à l'hôpital de Voiron. Nous, médecins de CHU de Grenoble-Wallon, rappelons ici le serment d'Hippocrate. Je ne permettrai pas que des considérations d'âge, de maladie ou d'infirmité, de croyance, d'origine ethnique, de sexe, de nationalité, d'affiliation politique, de race, d'inclination sexuelle, de statut social ou tout autre critère s'interposent entre mon devoir et mon patient. De plus, le contrôle d'un document vaccinal à l'entrée d'un hôpital est contraire au respect du secret médical. Bah oui. Si c'est le directeur a accès à votre dossier, et c'est interdit, ne peut avoir accès à votre dossier que la médecine du travail. C'est elle qui doit contrôler, mais pas un directeur. Enfin, le degré d'urgence est défini après la consultation avec le médecin. En conséquence, nous estimons que le contrôle d'un document vaccinal à l'entrée de l'hôpital constitue une infraction à plusieurs articles du code de déontologie. Ouais, bah, pas seulement de déontologie. C'est la loi. La loi. On n'a pas à connaître votre état de santé quand on est un employeur privé ou public. Nous vous distribuons le présent laissez-papier qui doit vous permettre de vous rendre librement à vos consultations avec l'accompagnant de votre choix ou visiter un patient respectant les horaires de visite, les règles de bienséance et de politesse habituelles et le port du masque. En cas de difficulté d'accès au sein, vous pouvez joindre le ou le pour signaler le problème, etc. Voilà. Les bienvenus à l'hôpital de Voiron. Des médecins refusent l'application du pass sanitaire aux patients. Et ils adressent un laissez-passer à leurs patients et à leurs proches. Ben, bravo. C'est bien. On respecte juste la loi. Le serment d'Hippocrate de soigner toute une personne sans lui demander d'où elle vient, où elle va, si elle a du pognon ou pas. Donc le pass sanitaire, on n'en veut pas. Ben, c'est pas des licenciements, mais c'est pire. Vous n'avez plus de salaire. Il y a donc plusieurs dizaines de milliers de personnes n'ont plus de salaire aujourd'hui parce qu'elles estiment que le bénéfice-risque des vaccins n'est pas assuré aujourd'hui avec les conditions dans lesquelles il est réalisé. Et donc, je suis désolé, mais j'espère ne pas être victime d'une attaque complotiste, de ne pas être traité de complotiste. Que, voilà, parce que ceux qu'on traite de complotistes sont ceux qui doutent. Oui, d'accord, il y a quelques gens qui disent que Bill Gates est en train de nous mettre des pastilles dans le sang pour nous contrôler depuis sa base de Pasadena. Non. Non, complotistes, il y en a plein, voilà. Hein, qu'il y a une planète qui va venir percuter la Terre demain matin, qu'il faut se sauver avec la fusée de Jeff Bezos d'Amazon. Bon, il y en a plein. C'est gros, ça se voit, mais... Il y a une contre-vérité qui s'installe et qui est installée par les laboratoires pour protéger leurs intérêts. On l'a vu pour la cigarette. Retour à l'histoire. On a retrouvé des courriers papier et des mails des grands fabricants de tabac disant « On sait que le tabac fout le cancer, je vous parle d'avant la guerre. » Je ne parle pas des années 50, je parle d'avant la guerre de 40, où ils étaient parfaitement conscients de foutre le cancer à leurs clients, mais ils ont dit « On va dissimuler et on va faire des contre-vérités. » On va dire aux femmes, bah, fumez une cigarette longue et mentholée, vous fumez la nature, ça ne peut pas vous faire de mal. Elle est longue, on vous met un long filtre et le filtre, il filtre. Le filtre filtre que du gros. C'est comme pour les bagnoles, on vous met du filtre et de particules et vous ne polluerez pas, ça sera bien dans les villes. Pour se rendre compte, 20 ou 30 ans après, que ça ne filtrait que les grosses particules et que les fines particules, celles qui pénètrent dans vos poumons, dans votre cerveau, dans votre cœur, au point que 30% des embolies cardiaques sont des bouchons de suie, eh bien que ça, eh bien ça n'a pas été dit, que ça n'était pas filtré par les filtres. Vous comprenez, si on revient sur l'histoire des choses, on se rend compte qu'on s'est fait bananer sur toute la ligne. Donc, on comprend que 76% des Français se méfient et qu'il faille adopter une attitude critique et prendre distance par rapport à les vérités officielles. Quand ça vient des laboratoires, des médecins qui sont quand même largement appointés par les laboratoires ou à qui on paye massivement, comme j'ai dit la dernière fois, des séquences de formation continuée en Tunisie ou ailleurs à 4-5 000 la semaine et plus avec hôtel 5 étoiles, il y a un petit conflit d'intérêts là, hein, et ça concerne une bonne partie du corps médical, pas dire tous, hein. Mon médecin m'a dit non, moi j'y vais pas à ces trucs là. Bon, alors je lui ai dit, ben, tu me prépares de l'ivermectine si jamais j'ai une petite faiblesse de ce côté là mais il y a une bonne partie, parce que moi, à un moment, j'ai été infirmier militaire, hein, sur la fin de ma vie. D'abord tueur de chars, et ensuite, à Montmelon-le-Grand, on m'a fait faire un stage d'infirmier militaire. Et ben, je peux vous dire que les labos, ils passaient, hein, pour voir le médecin-chef, lieutenant-colonel, les aspirants médecins, etc. Et ils leur filaient des caisses, je l'ai vu de mes yeux vus. On donne plus de caisses aujourd'hui. On vous paye votre formation continuée. Mais franchement, si on vous paye aux Seychelles un stage de formation sur le Covid à des prix que vous ne pourrez jamais vous payer, vous avez une petite tendance à la reconnaissance, n'est-ce pas? Ou si vous avez un resto à 300 euros, le resto, le tout couronné de vin un peu rare, vous n'allez quand même pas refuser de prescrire la vaccination au Pfizer si c'est le Pfizer qui vous a payé le resto. Ou le... Vous comprenez? C'est facile à comprendre que 76% des Français se méfient. Et je suis très content, voilà. Dans l'analyse d'aujourd'hui, dialectique des contraires, cette méfiance généralisée à l'égard de nos élites se mérite. Elle se mérite d'autant plus que les gens commencent à être informés de tous les côtés. Ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans, on allait les yeux fermés prendre de la thalidomide, on allait les yeux fermés prendre du Mediator pour essayer de moins manger, les yeux fermés, on allait se mettre au soleil, les yeux fermés, sachant pas qu'on avait 10 ou 20 fois plus de chances d'avoir un cancer de la peau, mélanome, en se fichant au soleil pendant des heures. On était, voilà, on ignorait la peur, nos lendemains avaient un goût de miel, ton bras penait mon bras, on n'avait pas peur, on y allait.
Kept the chuggy with the plastic eyeballs. Spray paint the because one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in a bag. With the rerun shows and the cocaine knows ya, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate, trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. So
on était sous-informé. Mais aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Il y a d'une part les réseaux Internet, mais d'autre part beaucoup de canards alternatifs qui sont achetés par nous pour ne pas être vendus aux laboratoires ou aux grandes multinationales qui nous ont permis d'ouvrir les yeux. Et une masse de la population française ouvre les yeux, elle devient mature. Et c'est pour ça que la démocratie directe est devenue aujourd'hui possible. Une masse de gens informés peuvent diriger un pays alors qu'une masse d'ignares ne le peut pas et confie aux élites de l'amener les yeux fermés au bord du gouffre. Nous sommes au bord du gouffre climatique, prochaine émission. Mais là, j'aurais simplement dire que, voilà, il faut faire du doutisme, pas du complotisme. Le complotiste, lui, il pense que ce n'est pas les multinationales, ce n'est pas la presse aux mains des multinationales, ce n'est pas la publicité, ce n'est pas nos gouvernements qui sont largement auxiliaires de ces multinationales qui nous mentent ou qui nous donnent des informations approximatives. C'est un petit groupe de gens qui complotent. Non, ce n'est pas ça. C'est tout un système qui ne complote pas, qui défend ses intérêts. C'est d'une simplicité totale. Donc il faut avoir une culture du doute par rapport à tous les dominants. L'État, les grandes multinationales, les grands riches, les grands médias. Ben, vous voyez, le Monde, hein, c'est 3 milliardaires qui le possèdent. Kretinsky, Pigas et Niel. Qu'est-ce que vous voulez que le Monde, notre journal national de référence, mieux que le New York Times, eh ben, il est aux mains de 3 milliardaires. Comment voulez-vous que dans le Monde, vous ayez des informations saines? Les journalistes qui ne veulent pas perdre leurs 3-4 000 euros par mois ou 5 000, et ils ont intérêt à filer doux. Ils ne vont quand même pas démolir la main qui leur donne à manger. On ne mord pas la main qui vous donne à manger. Encore récemment, là, j'achetais des brownies, des gamines qui font des brownies frais à Pont-de-Beauvoisin. Et alors, je leur dis merci hein, pour le blé sur pâte courte avec beaucoup de protéines dedans, le sucre avec beaucoup de Roundup dedans, bonjour la farine avec beaucoup de pesticides et de métaux lourds, bonjour les additifs, il y en a entre 7 et 28 dans la pâte, bonjour et merci hein, pour les brownies, je suis pressé, je vous en prends deux. Les filles disent « Ah non, c'est faux ce que vous dites, non, c'est produit local, regardez, on est en train de les faire pour vous sous votre nez. » Ah oui, ben d'accord, les employés avaient été le cerveau rincé par les proprios pour dire que, puisque c'était fabriqué sous notre nez, à la limite c'était au gasoil, hein, mais ça aurait été au charbon de bois, c'était pareil, donc c'était bien. Quand c'est local, c'est bien. Mais non, quand c'est local et qu'on balance du pesticide, c'est pas bien du tout le local. Quand c'est plein de pesticides, voyons, on est sans arrêt en train de fabriquer parmi les salariés qui ne veulent pas perdre leur emploi, des agents de propagation d'une propagande du pouvoir. D'où cette méfiance qui se généralise et qui est une très bonne chose. Le pass sanitaire, on n'en veut pas. Et la vaccination, écoutez, que tout le monde soit libre de se vacciner. Et qu'on n'empêche personne de se vacciner, qu'on n'empêche personne de ne pas se vacciner s'il estime que le bénéfice-risque est douteux. Et alors, c'est donc, mes amis, une culture du doute que cette radio essaye de vous instiller. Donc pas de discours dominant, contrairement à ce que certains ont pu me dire, mais selon les données officielles, allez, en voilà une, encore données officielles. Le Covid aurait tué 116 000 personnes depuis la crise, ça c'est au 15 septembre. Et comparer ce chiffre avec les données de l'INSEE. Alors l'INSEE, c'est l'Institut National des Statistiques Économiques, etc. INSEE, vous tapez INSEE France FR et vous regardez au numéro 42 018 743. Vous voyez, c'est un organisme statistique officiel, moderne, mis en place depuis un siècle et demi. Ça marche, c'est précis, c'est... Voilà. L'épidémie de grippe de l'hiver 2018, je les cite, a été précoce et très longue. Elle a débuté en décembre 2017 et s'est achevée fin mars 2018. Référence Bernard Stockins, S. et Aliyi, 2018. Le niveau particulièrement élevé des décès en janvier 2017 n'a toutefois pas été atteint. 60 000 décès en janvier 2018 contre 68 000 en janvier 2017, mais le cumul sur les trois premiers mois de l'année en 2018, 172 000 décès, dépasse légèrement celui de 2017, de 171 000 décès en 2017. Alors, est-ce qu'on n'est pas en droit de se poser des questions ? Allez-y vous-même. Crise sanitaire, le Covid aurait tué en France 116 000 personnes, mais alors pourquoi l'épidémie de grippe 2018, qui dépasse légèrement celle de 2017, l'INSEE comptabilise 172 000 décès. Non, mais attendez, ça craint. Pourquoi on nous fait peur sans arrêt? N'est-on pas en droit donc de se poser des questions? On nous demande donc de nous faire vacciner, qui est la seule solution qui est proposée. Tout à l'heure, je vais vous parler des alternatives. À 90%, ça marche dans les différentes expérimentations à ce jour. 80-90%, au Chiapas, en Inde, etc. Ça a quand même des expériences sur des millions de personnes. On peut peut-être réfléchir comment se fait-il qu'un simple traitement qui coûte presque rien, comme l'ivermectine associée au zinc et à la vitamine D3, puisse guérir le Covid, alors que la vaccination ne nous guérit pas, puisqu'on continue de pouvoir à 20% faire des formes graves, être réinfecté, et si on n'est pas à la troisième dose, bientôt la quatrième, et d'être contaminant. Enrayer l'épidémie grâce à une immunité collective, c'est peut-être été légèrement le cas, mais le pays qui ont le plus vacciné, comme Israël ou l'Islande, si vous regardez les courbes, ce sont ceux qui ont la pire troisième vague. Mais ça craint. Voilà, le pass sanitaire est obligatoire dès l'âge de 3 ans en Israël, qui a été le champion du monde de la vaccination, et ils en sont à réfléchir à une quatrième dose de rappel. Ça craint. Comme pour la grippe, ce virus va probablement continuer d'exister avec nous et muter chaque année. Mais vous rendez compte le pognon qu'on risque de faire avec ça? Difficile de comprendre, non? Quelle est la logique qui est mise en œuvre ici? Pourquoi n'y a-t-il pas du débat public contradictoire? Le monde de la santé, celui des médias, la politique, les fondations faussement caritatives où les milliardaires mettent un peu d'argent pour se racheter d'avoir exploité le monde entier, est en train, dans ce pays, d'être gangrené par une corruption de plus en plus généralisée. Des études dites scientifiques ne sont plus financées de manière impartiale. la recherche d'État est mixée avec la recherche privée. Des chercheurs d'État reçoivent de l'argent pour dire des choses contraires à ce qu'ils pourraient dire. Je redis que le livre Monsanto, une multinationale qui nous veut du bien, de Marie-Monique Robin, faisait état, ce chercheur britannique, sur l'amiante, respecté dans le monde entier, qui a dit avant tout le monde que l'amiante était une catastrophe sanitaire avant d'être un produit industriel de masse, soi-disant efficace contre l'incendie, enfin contre pour prévenir le développement de l'incendie. Cet homme-là a reçu $1 million de Monsanto pour dire que les OGM étaient en substance équivalente aux substances naturelles. $1 million il a reçu. Et il a sauté le pas. Et vous, si vous, on vous offre $1 million, est-ce que vous n'allez pas nous dire qu'il n'y a pas de pesticides dans le pain ou dans les brownies ? Lorsqu'on voit que l'Inde sorte son épidémie de Delta variant à suite à une campagne de traitement à base d'ivermectine et de vitamine D et zinc, qui ne coûte rien, ce n'est pas des traitements, c'est l'évolution. On nous a dit, hein, en Inde, c'est l'évolution naturelle. Non, c'est un traitement naturel, efficace, que je vais pratiquer, que je vois pratiquer, que beaucoup ont pratiqué en France. Beaucoup plus efficace que l'hydroxychloroquine. Mais l'hydroxychloroquine, elle a eu son efficacité combinée, hein, avec un antibiotique et pris à temps. Mais les chiffres sont devenus un instrument de manipulation. Dans l'article de l'INSEE, voilà ce qu'on peut lire. Le nombre de décès en France n'a jamais été aussi élevé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Papon et Bonnel, 2019. Il a tendance à augmenter mécaniquement depuis le début des années 2010 du fait de l'arrivée des générations nombreuses du baby-boom, né entre 46 et 74, à l'âge des fortes mortalités. Comparons l'âge moyen de mortalité du Covid, 83 ans, c'est-à-dire plus que l'espérance de vie. Mais attendez, l'espérance de vie moyenne, c'est 81. Les hommes, c'est 79, 78, 79. Les femmes, 83, 84. Et ben voilà. On meurt plus de mortalité du Covid à 83 ans, l'âge moyen de mortalité du Covid. Mais c'est au-delà de l'âge moyen de mortalité. Donc on met sur le dos du Covid des morts qui seraient morts, au-delà du seuil moyen de mortalité. Pourquoi on comptabilise tout ça dans la mortalité Covid pour nous faire peur ? Plus on nous fait peur, plus on peut nous diriger, comme j'ai dit la dernière fois, et plus on nous fait avaler des fake news en nous traitant de fake newsers. C'est-à-dire que l'on ne cherche pas à faire un rapport entre le nombre de morts de l'année et le nombre de personnes âgées, pourtant plus nombreuses qu'avant. On devrait dire, voilà, il y a plus de personnes âgées, donc il y a plus de mortalité, forcément. On annonce simplement dans un climat de peur que le gouvernement a instillé, pensez à ce Véran, j'espère que la justice va le rattraper, qu'il y a de plus en plus de morts. On nous fait tellement peur que même ce resto de Pont-de-Voisin, très sympa, je déteste ceux qui ne sont pas vaccinés. Eh bien oui, parce que cela a enlevé des clients. Remarquez, on peut se faire servir un plateau. De la même manière, nous testons bien davantage les non-vaccinés que les vaccinés. Or, plus on fait de tests et plus on trouvera mécaniquement de cas positifs. On nous dira simplement, il y a beaucoup plus de cas positifs non-vaccinés que vaccinés, sans mettre ces données en rapport avec le nombre de tests réalisés sur chaque population. Donc on nous ment. Il faudrait dire, sur 100 non vaccinés, il y a tant de cas, et sur 100 vaccinés, il y a tant de cas. Mais on fait le nombre de tests sans dire sur quel nombre ils portent. Lorsque je vois des analyses en profondeur des chiffres, il y a de quoi avoir peur, mais pas dans le sens où on pourrait s'attendre. Décoder l'info, par exemple, hein, voilà. C'est une des rares personnes en France, hein, qui a cherché à décoder les données liées au Covid, hein, ça s'appelle la chaîne Décoder l'info. Mais son discours est hallucinant. Le problème est aujourd'hui, une phrase qui fonctionnait bien avant ne marche plus. Dans le passé, on pourrait dire des études scientifiques prouvent ceci ou cela. Aujourd'hui, on sait de manière très factuelle que de nombreuses études scientifiques sont biaisées, car elles ne sont pas impartiales, voire même truquées, voire même financées par les grands laboratoires, qui ont intérêt à faire ce que Trump appelait les vérités alternatives. Vous savez que les gens qui produisent du pétrole ont balancé des vérités alternatives. Eux aussi, comme les industriels du tabac, toujours aller dans l'histoire, revenir au présent, regarder la globalité du problème, regarder les interactions entre gouvernement, Big Pharma et la média, donc regarder globalité, puis ensuite regarder les contradictions, hein, ce qui naît de nouveau et ce qui s'oppose à l'ancien, ce qui... Bah, mais quand même, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? C'est qu'avant, on pouvait dire la science, parce qu'elle était publique. A été financée avec des crédits sans conflit d'intérêts. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le dire. La plupart des labos, 80% de leur financement est privé. On ne peut pas dire, voilà. Et les vérités scientifiques, j'étais en train de vous le dire, c'est quoi ? On nous a dit, il n'y a pas de réchauffement climatique. C'est juste des chaînes géologiques de temps long. On est dans une phase de réchauffement géologique à l'échelle de millions d'années. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire un peu de fumée avec nos bagnoles ou avec nos tankers géants ou avec nos torches dans les grands centres d'extraction du pétrole. Non. Ça n'a rien à voir. Simplement, la Terre connaît des phases de glaciation, des phases de réchauffement, de fonte des glaces, etc. Même notre ministre de l'Éducation nationale a été abreuvé d'argent des pétroliers pour dire qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique. Donc vous voyez, quand on fait retour sur le passé, on a des raisons de se méfier. On ne peut plus sortir l'argument que ces nombreuses études scientifiques sont biaisées par le fait qu'il y a des gens qui financent des contre-vérités. Les pétroliers ont financé la contre-vérité. Résultat, on a perdu 50 ans de lutte contre le réchauffement climatique parce qu'on a tellement instillé le doute qu'on a perdu du temps. Attendons d'être sûr que c'est bien le réchauffement dû à l'envoi de CO2 dans l'atmosphère. Trop tard, les copains. On a perdu 50 ans. Devons-nous perdre encore beaucoup de vies à cause d'une vaccination précipitée qui n'est pas un vaccin et dont le fonctionnement même ralentit ou freine ou même, annihile certaines de nos défenses naturelles. Est-ce qu'on ne peut pas emprunter un autre chemin de développer nos défenses naturelles, de faire des médicaments pas chers pour tout le monde, plutôt qu'une vaccination qui rapporte un tas de pognon voilà, ça c'est une question, hein. Je ne dis pas que c'est une vérité. Tout ceci se passe à un niveau mondial, puisqu'on a globalisé le capitalisme. Les corporations n'ont pas de patrie. L'OMS est corrompue, selon le sénateur français eux-mêmes. Vous tapez WCNA, qui a fait un rapport sur l'OMS. Qu'est-ce qui finance l'OMS ? Qu'est-ce qui a intérêt à dire que... peut-être que la Chine, qui met beaucoup de pognon, a intérêt à dire que le Covid n'est pas parti de son laboratoire du Wuhan. Peut-être qu'il n'est pas parti, peut-être qu'il est parti, mais quand vous mettez du pognon, vous contrôlez l'information. Le gouvernement, en plus d'une fois, déléguait la gestion de la crise à des cabinets privés. Macron, il n'a que des cabinets privés pour gérer ceci, pour gérer cela. Mais c'est des institutions totalement corrompues. Regardez comment ça se passe au niveau des élections. Voilà, les réseaux sociaux appliquent une censure de plus en plus folle. Voilà. Va-t-on vers cette société de contrôle et de corruption générale ? Oui, les amis, on est dans une société de contrôle et de corruption générale. Ayons de vrais débats, mettons ces vrais débats sur la table, et je suis énervé que personne ne veuille, à Pont-de-Beauvoisin, que notre association et d'autres puissent faire des cafés citoyens pour débattre de ces choses-là. Et moi, quand je fais un café citoyen, je viens avec des statistiques, l'origine des statistiques, sous forme de petits papiers que les gens lisent pendant 20 minutes, qu'ils aient le temps, si je fais un débat au café, au cinéma, c'est avec des documentaires vérifiables et vérifiés de FR3 ou d'Arte. On a des documents sur les pesticides, tant de tonnes, tant d'effets secondaires, tant de cancers. Voilà, ça c'est du débat public. Pourquoi personne ne veut filer de salle et ne veut de ces débats publics ? Pourquoi on nous enfile dans un chemin ou dans un tunnel où toutes les vaches sont grises ? Bien le bonjour chez vous et n'hésitez pas à réagir à ce que je viens de dire. Et j'ai pas eu tout à fait le temps, donc je vous donne juste la référence du bouquin que je viens de lire et qui est formidable. Big Pharma démasqué, de la chloroquine au vaccin. De la chloroquine, on pourrait dire, à l'ivermectine et au vaccin. La crise du coronavirus révèle la face noire de notre système de santé. Xavier Bazin. Alors, il faut prendre avec des pincettes, parce que lui, il est 100% médecine naturelle. On peut les appeler complémentaires. Hein. On ne soigne pas un cancer avec de l'ivermectine, évidemment. Mais pourquoi y a-t-il tant de cancers? Je vous laisse sur cette question. Et vous pouvez m'appeler au 06 75 80 05 119. Prochaine émission, la catastrophe climatique.
C'était la Seine Cause pour un bien commun et un monde vivable.